Vous écoutez Radio France Internationale, 4h30 en temps universel, 6h30 à Paris.
Afrique Matin.
Et bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Dans votre journal, des éclaircissements ont été nécessaires hier au sommet de la francophonie.
Un sommet qui est maintenant clos après deux jours de débat et la colère du président congolais quand son homologue français n'a pas évoqué nommément l'Est de la RDC au moment d'évoquer la défense des souverainetés nationales. Omission réparée hier nous expliquera dans un instant notre envoyé spécial. Dans ce journal également, la Tunisie qui vote aujourd'hui, élection présidentielle pour la le chef de l'État, Kais Saied, brigue un second mandat. Une partie de l'opposition a appelé au boycott, dénonçant un scrutin verrouillé. Le Tchad, les opposants des transformateurs posent leurs conditions pour participer aux prochaines élections législatives. La première de ces conditions, c'est le report à l'année prochaine de ce scrutin qui est pour le moment prévu au mois de décembre. Nous serons aussi au Liberia. Une entreprise chinoise est accusée de polluer les eaux et les sols de plusieurs villages du nord du pays. Et dans une dizaine de minutes, Victor Missistrano sera avec nous pour le journal des sports. On parlera football notamment. Duel ouest-africain ce soir en finale de la Coupe du Monde de Maracana entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Angola, Chili, Nouvelle-Écosse, Polynésie française et le Land allemand de la SAR, l'Organisation internationale de la francophonie, compte désormais 5 nouveaux membres. L'OIF qui a tenu son sommet annuel ces deux derniers jours à Paris et à Villers-Cotterêts. Parmi ces nouveaux membres, donc, l'Angola a le statut d'observateur. Est-ce que l'Angola a pu observer ces deux derniers jours? C'est notamment un couac entre la France et la République démocratique du Congo à propos du conflit en cours dans l'Est congolais. Envoyé spécial, Pierre Firsion.
Dans son discours d'ouverture du sommet vendredi, Emmanuel Macron plaide pour une diplomatie francophone qui défende l'intégrité territoriale partout à travers la planète. Il cite alors plusieurs terrains de conflit, l'Ukraine, le Proche-Orient, l'Arménie, mais ne mentionne à aucun moment l'Est de la RDC. Un oubli que goûte peu Félix Tshisekedi. Conséquence, le président congolais boycotte le huis clos des chefs d'État samedi après-midi, après avoir pourtant participé aux discussions du matin, et boude également le déjeuner offert par la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo. Qu'il n'y ait pas de malentendu, réagit Emmanuel Macron en fin de sommet, je n'ai été que parcellaire dans les citations, et il y a beaucoup de crises, de tensions, de guerres que je n'ai pas citées, et le président français d'ajouter.
Pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs. Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR.
Il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France, assure le président français en conclusion. Un point de vue que ne partagent visiblement pas les autorités congolaises.
Pierre Firsion, la République démocratique du Congo qui a lancé par ailleurs hier sa campagne de vaccination contre le Mpox, campagne pour le moment uniquement localisée et ciblée dans la province du Sud Kivu, priorité au personnel de santé ainsi qu'aux personnes les plus fragiles, alors que la RDC est l'épicentre de l'épidémie et que la maladie y a tué plus de 900 personnes depuis le début de l'année. Ce matin, nous recevons le directeur de l'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, Jean Kaseya. Il insiste sur le fait que le vaccin est sûr et il encourage tous ceux qui sont concernés à se faire vacciner.
Ce vaccin a déjà été utilisé en Europe, aux États-Unis. La preuve est là, la population rwandaise s'est fait vacciner, elle n'est pas morte. Et au contraire, on voit une courbe descendante au Rwanda. Donc, nous appelons toute la population africaine concernée à se faire vacciner. Nous sommes là, notre mandat est de garder la santé des Africains et de notre continent. Et Africa CDC fera de son mieux en travaillant ensemble avec le gouvernement et avec les partenaires pour sauvegarder ça.
Jean Kaseya, le directeur de l'Agence sanitaire de l'Union africaine, avec Pierre Olivier. Et l'intégralité de cet entretien avec le directeur de l'Africa CDC, vous pourrez l'écouter dans une heure environ et il est déjà en ligne sur RFI.fr. Notez que la RDC ne dispose pour le moment que d'un peu plus de 250 000 doses de vaccins contre le Mpox et Kinshasa en attend toujours plusieurs millions de la part notamment de l'Union européenne, des États-Unis ainsi que du Japon.
RFI.
À quoi la journée de vote va-t-elle ressembler en Tunisie? Ce dimanche, les Tunisiens sont appelés à choisir leur président. Le chef de l'État en exercice, Kais Saied, brigue un second mandat à l'issue d'une campagne marquée notamment par l'interdiction faite à 3 candidats de concourir, alors que leur dossier avait été validé par le tribunal administratif. Résultat aujourd'hui, ils ne sont que 3 en lice, dont un est en prison. Portrait des 3 prétendants avec Amira Souilem à Tunis.
Il y a d'abord Kais Saied, que l'on surnomme désormais l'hyper-président. Alors qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs en 2021, le maître de Carthage est bien déterminé à y rester. Dans certains de ses discours, il a ainsi clairement annoncé qu'il ne laisserait pas le pays à des personnalités qu'il qualifie de non-patriotes. Kais Saied peut d'ailleurs donner l'impression d'agir comme s'il avait déjà gagné, lui qui a opéré fin août un très large remaniement suivi d'une valse des gouverneurs. Face à lui, 2 hommes, Zuhair Marzawi, ex-député panarabe, qui cherche désormais à se tailler une stature d'homme d'État. Lui qui a très longtemps soutenu le président tunisien, le tacle et critique désormais ouvertement. Sillonnant les régions de Tunisie, il a mis l'accent sur les problématiques sociales et économiques dans son programme. Quant au dernier candidat, celui-ci suivra la présidentielle depuis sa geôle. Aïechi Zemel, homme d'affaires qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, a été emprisonné pour des faux parrainages supposés. Son équipe de campagne crie au coup monté et a défendu son programme à sa place en son absence. Tout en demandant sa libération, ses proches avaient aussi conscience que la case-prison pouvait polir son image de martyr de la liberté. Amira Souilem, Tunis, RFI.
La Tunisie, où les bureaux de vote doivent ouvrir tout à l'heure, à 8h, heure locale, 9h, heure de Paris. Et notez que la commission électorale tunisienne n'a pas pour l'heure prévu de date pour un potentiel second tour. Des élections qui se profilent, c'est au Tchad, législative, le même jour que des provinciales et des communales prévues à la fin du mois de décembre. Il en a été question hier et avant-hier au congrès des transformateurs, le parti de l'opposant Succès Masra, des transformateurs qui demandent d'un report de ces scrutins auxquels ils disent vouloir participer, mais sous conditions. Anjamena, correspondance de Carole Valade.
Les transformateurs iront aux élections, mais à condition qu'elles soient reportées à 2025 en raison des violentes inondations qui touchent actuellement le pays, qui ont fait près de 600 morts, affecté près de 2 millions de personnes, rendu totalement inaccessibles certaines parties du pays et qui devraient encore s'aggraver dans les prochains jours. Impossible dans ces conditions de battre campagne, selon le parti, qui dit tirer les leçons de sa participation à l'élection présidentielle de mai dernier. Succès Masra est arrivé second selon les résultats officiels qu'il conteste toujours, en posant également comme condition la révision des listes, du découpage, du code et de la composition des institutions électorales. Succès Masra laisse néanmoins la porte ouverte à une forme de collaboration avec le pouvoir dans le cadre de ce qu'il nomme un consensus bipartisan, de quoi faire grincer des dents dans les rangs des autres partis. Carole Balade, Djamena, RFI.
Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Burkina Faso et la prise de parole du président de la transition hier, Ibrahim Traoré. 2 ans après sa prise de pouvoir, il a répondu à des questions d'auditeurs sur la radio publique burkinabé. Et en parlant notamment de l'attaque de Barsalogo fin août dans le nord du pays, où les djihadistes du JNIM ont tué au moins plusieurs centaines de civils, il promet que les résultats d'une enquête seront connus d'ici quelques jours. L'Algérie et la perspective d'un déplacement en France du président algérien qui s'éloigne encore un peu plus. Visite initialement prévue en mai de l'an dernier, mais qui est depuis sans cesse repoussé et qui serait désormais considéré comme une humiliation, dit Abdelmadjid Tebboune. Alors que les relations sont déjà compliquées entre les deux pays, elles se sont encore rafraîchies au mois de juillet, quand Paris a annoncé soutenir la position du Maroc pour la région du Sahara occidental. Construire une autoroute doit-il se faire au prix d'une eau polluée et potentiellement mortelle? Dans le nord du Libéria, plusieurs villages dénoncent la manière dont l'entreprise chinoise Railway Sevens Group, choisie par les autorités pour construire une entreprise, la manière dont cette entreprise exploite une carrière. Précision et explication avec Christina Okello.
Depuis 4 ans, Sam Carwoods, habitant du village Henry Barn dans le comté des Nimba, voit des sédiments de pierre provenant de la carrière chinoise tomber sous ses terres et sous ses rivières.
Quand ils font exploser la carrière, ils utilisent des produits chimiques et ça pollue l'air. Après, il y a de la poussière sur la nourriture et nous ne pouvons pas consommer nos produits comme le manioc. Tout est pollué. Nos ressources en eau se sont taries et tous les cours d'eau sont endommagés. Aujourd'hui, nous vivons sans eau ou nous devons la consommer en achetant des bouteilles en plastique. Ceux qui n'ont pas d'argent, eux, doivent boire l'eau polluée.
Avec des conséquences pour la santé, plusieurs habitants se plaignent de problèmes de diarrhée et de maux de tête. Sam Carwood dit avoir perdu 11 membres de sa famille. Au mois de mai de cette année, un rapport de l'Agence de protection de l'environnement a mis en cause l'entreprise chinoise pour avoir déversé des sédiments de mortier dans les nappes phréatiques. Des conclusions restées depuis sans suite, motivant les habitants comme Sam Carwood à vouloir désormais porter plainte.
Christina Okello. Et puis tout est rentré dans l'ordre, ou presque, chez les Farka Touré à Bamako. Avant-hier, sur notre antenne, vous avez pu entendre vieux Farka Touré déplorer le vol du Grammy Award gagné en 1995 par son père, feu Ali Farka Touré. Première fois qu'un artiste malien recevait un tel prix, les Grammy Awards étant les récompenses de l'industrie américaine de la musique, un prix symbolisé par un petit gramophone doré qui avait donc disparu. Il a été retrouvé hier dans un sac plastique déposé devant la résidence familiale, cassé en deux, mais il sera réparé. Et ce matin, vieux Farka Touré nous dit son soulagement.
On a retrouvé le trophée là, ce matin, vers 6h du matin. Le gardien l'a trouvé devant la porte à côté. Dieu merci, ça a été retrouvé, mais cassé. Parce qu'ils ont cherché à voir que voilà, ce n'est pas de l'or, donc ils ont ramené quoi.
Je suis très très content. J'étais tellement épuisé, fatigué ces deux jours que c'est pas possible. Parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué. Voilà. Et là, je suis vraiment fier. Je pense que ce n'est pas à moi seul. C'est un bonheur pour tous les Maliens. Et en réalité, je remercie tous les Maliens, tous les Africains, tous les Européens, les Américains, le monde entier pour tout l'effort qu'ils ont fourni.
Aujourd'hui, c'est la fête. Comme on dit chez nous, c'est la fête au village. Donc c'est bon. Et là, je suis vraiment content de savoir que les Maliens tiennent à cœur voilà, ce monument de la musique.
Vieux Farka Touré, joint par Guillaume Thibault à Bamako.